à recevoir ces directives. Seigneur, merci pour Seigneur, ce moment où ta parole peut nous être adressée par ton esprit. Seigneur, nous avons besoin effectivement de bien l'interpréter. Et c'est toi qui l'interprète, Seigneur. C'est toi qui es le guide. C'est toi, Seigneur, qui, par ton onction, eh bien, Seigneur, nous donne de pouvoir la recevoir et la mettre en pratique. Nous te demandons ta grâce et te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. On va relire un passage dans les versets 10 à 15. Clôturant ainsi cette série que j'ai commencée il y a quelques dimanches sur ce passage d'Hébreu. Hébreu 13, verset 10, jusqu'à 15. Nous avons un autel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Car les corps des animaux dont le sang était offert pour les péchés dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur sont brûlés hors du camp. Et c'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Ce matin, nous avons eu un temps de louange et d'adoration où nos lèvres ont pu confesser son nom. Mais ça ne doit pas s'arrêter au dimanche matin. Ça doit être tout au long de la semaine. Et même sur notre couche, la nuit, nous pouvons confesser son nom. Amen. Il y en a qui le font ? Voilà. Vous voyez, le Seigneur n'est pas limité à notre conscience, mais aussi quand nous dormons, le Seigneur veille sur nous et nous pouvons élever son nom sur notre couche. C'est dans les psaumes que nous voyons cela aussi. J'aimerais qu'on puisse comprendre ce matin cette exhortation du verset 13, « Sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. » Je voudrais que le message ce matin soit vraiment de nature à comprendre ce passage, qui n'est pas facile, parce qu'il fait référence à l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et parfois nous ne connaissons pas bien, en tout cas ceux qui sont issus du catholicisme comme moi, l'Ancien Testament, c'est pas quelque chose qui est enseigné. Il y a des bribes d'Ancien Testament, des psaumes, tout ça qui sont cités, mais c'est surtout l'Évangile et les épîtres qui sont mises en valeur dans le catholicisme. Donc souvent nous sommes un peu à court pour comprendre. Et le livre des Hébreux a été écrit pour expliquer à des Juifs comment il faut maintenant interpréter la nouvelle alliance et le culte, comment le culte doit être prononcé, doit être exécuté. Vous savez, les Juifs, c'est les premiers qui se sont convertis, hein, ne serait-ce que les disciples qui étaient tous Juifs, et ensuite après, Pierre, etc. Et ce que plus tard, que Dieu a parlé à Pierre pour aller voir Corneille, mais c'était un combat pour lui. Parce que pour lui, c'est les Juifs qui sont le peuple élu et que les païens n'avaient pas droit à cette élection. Et donc il y a eu cette tension très forte, hein, et Dieu a dû le mener par la main, je dirais, Pierre, pour aller à Corneille. Et donc cette apparition des viandes qui descendaient, des sacrifices d'animaux, etc. Et Pierre a dû changer ce qu'on appelle de paradigme, de mode de pensée. Et nous aussi, nous sommes souvent dans ces périodes où nous devons changer nos modes de pensée. D'ailleurs, même quand on a des enfants, hein, ceux qui ont eu des enfants, vous voyez bien que vous ne pouvez pas élever un enfant qui a quelques mois, puis un enfant qui a 18 ans. Hello? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut évoluer, il faut changer, il faut s'adapter. Et ceux qui ne s'adaptent pas, les parents qui ne s'adaptent pas, malheureusement, il y a des crises fortes. Et les enfants, souvent, ils partent de la maison parce qu'il n'y a pas cette adaptation indispensable pour s'adapter au nouvel environnement. Et nous, nous avons besoin de changer nos raisonnements. Et c'est un texte qui nous oblige à changer de pensée par rapport au culte, parce que naturellement, nous revenons à ce système que les Hébreux avaient été leur culte. C'est un système de ritualiste. C'est vrai que l'ancienne alliance était basée sur des rites très forts, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore suffisamment présent. Le Saint-Esprit agit dans l'Ancien Testament, des prophètes qui ont prophétisé, Isaïe, David, etc. Mais il n'y a que lorsque Jésus est ressuscité qu'il a envoyé son esprit sur toute chair. Donc nous sommes dans cette dispensation, j'allais dire, une dispensation de la grâce où le Saint-Esprit est répandu dans nos cœurs. Amen. Prenez votre main sur votre cœur et reconnaissez que le Saint-Esprit est là, non pas ici physiquement, hein, mais dans votre intimité la plus profonde. Le Saint-Esprit est là. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus, si vous avez passé par les eaux du baptême pour le confesser, le Saint-Esprit est là qui atteste que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Et vous pouvez dire Abba, Papa, adieu. Vous voyez, ça c'est extraordinaire. Hein. De dire à Dieu papa. C'est incroyable ça. Hein? C'est-à-dire un mot d'une très grande intimité, et c'est Jésus qui l'a enseigné à ses disciples. Regardez Jésus, il était tout le temps avec son papa. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on dit c'est le Fils de Dieu, en disant il n'est pas engendré comme nous le sommes, même s'il est venu par Marie, ça n'a rien à voir, c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu, c'est pas Marie. Marie l'a porté, hein, c'est tout. Donc elle était un véhicule d'obéissance, mais il faut oublier Marie, bien qu'elle soit un témoignage d'obéissance, c'est vrai, mais sans plus. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu pour être au milieu des hommes. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est tout. Par contre, la proximité de Jésus avec son Père, dont il est issu, c'est ce témoignage qu'il reconnaissait que c'était son papa. Et c'est vrai que beaucoup de chrétiens ont du mal à dire papa à Dieu, parce qu'ils identifient Dieu Père comme à leur Père à eux. Mais déjà, un, c'est faux. Ça, c'est de l'anthropologie théologique qui est totalement fausse. Dieu n'est pas à notre image. Hein. Nous sommes à son image, mais pas à l'inverse. Hein. Lui, il est incréé, nous sommes créés. Donc déjà là, c'est une erreur théologique d'imaginer Dieu comme un père et son fils. Hein. Voilà. Mais simplement, il prend une image. Jésus a toujours pris des images. Dieu a toujours pris des images pour nous faire comprendre des choses. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que Dieu, et nous sommes tous le même Dieu, hein. Sur toute la terre, on n'a qu'un seul Dieu. Okay. Mais la particularité, quand on connaît Jésus, c'est qu'on peut dire à Dieu, papa. Ça vous dit quelque chose, ça ? Il y a peut-être ce matin qui ont du mal. On va juste prier un instant pour que vous puissiez passer du stade de Dieu. Ça, c'est mon témoignage. Moi, depuis tout petit, j'ai aimé Dieu. J'étais catholique et donc j'assistais à tout ce que vous voulez très très fortement. Et avec les abbés, quand j'étais au lycée, je suivais toutes les rencontres de l'aumônerie avec l'abbé. On faisait pèlerinage, on faisait tout et tout ça. Et en fait, j'avais fait un cahier où j'avais mis dans mon cahier tout l'univers, les étoiles, les machins, tout ça. Et je voyais Dieu qui était puissant et qui était l'univers. Et puis, voilà, je connaissais Dieu comme ça. Et on m'apprenait ça comme ça. Et quand j'ai rencontré un ami qui, lui, s'est converti, il m'a parlé d'un Dieu intime qui parlait tous les jours. Je dis, mais waouh, c'est quoi ça? C'est spécial, ça. C'est jamais entendu ça. Et mon cœur était touché. Et du coup, j'ai rencontré Dieu comme mon père, comme une intimité, vous voyez, que Dieu est dans l'histoire, que Dieu est dans mon histoire, Dieu est dans l'histoire de l'humanité, Dieu est là, etc. Et ça, c'était quelque chose qui était inconnu pour moi. Je voyais Dieu dans sa puissance, dans sa grandeur, dans sa création, dans tout ça. Voilà. Mais connaître Dieu de manière intime, c'est ça qui nous fait avoir une relation avec lui. Et à ce moment-là, on sent l'amour de Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu comme votre papa, vous ne ressentez rien. Il faut que votre cœur soit touché. Il faut que votre cœur vibre, vibre. Et c'est ça qui va vous garder de la parole, du monde, et qui va vous donner l'amour de la parole. Parce que vous avez envie de lire cette lettre d'amour qui est un peu comme un fiancé qui envoie sa lettre au fiancé. Vous n'imaginez pas que la lettre, on la met à la poubelle. C'est impossible. Sinon, ce n'est pas un fiancé. Cette lettre, on l'attend. On l'attend, on la lit, on la relit, on la met de côté. Ça vous dit quelque chose, ça? Hein? Ben, si vous vivez ça dans le monde naturel, il faut que vous transposiez ça dans le monde spirituel. Et si cette lettre-là ne vous fait pas vibrer, il y a un problème. Il y a un problème, c'est tout. Il ne faut pas la lire de manière légaliste. Il faut la lire parce que ça vous donne chaud au cœur. Amen. Parce que vous avez envie de savoir ce qu'elle contient. Et cette lettre, ce livre, vous pouvez le relire toute l'éternité, il va y avoir des perles qui vont sortir. Amen. Alors je vais juste prier, baisser les yeux, pour ceux qui veulent avoir cette relation avec un papa, qu'il soit guéri maintenant. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui prononcer ce mot papa, non pas parce qu'il faut le prononcer, mais parce qu'il est le résultat d'une démarche de cœur qui va les amener plus proche de toi, dans l'intimité avec Dieu. Alors Seigneur, ce matin, bénis tous ceux qui, dans leur cœur, te demandent cela, te demandent une plus grande proximité, te demandent de te connaître comme un papa. Révèle-toi à eux ce matin, et que la puissance du Saint-Esprit puisse agir dans leur cœur et les guérir de tout un passé peut-être qui les empêche, Seigneur, et qui les pousse à plaquer des images sur toi. Seigneur, tu n'es pas quelqu'un d'humain, avec des défauts, tu es quelqu'un de parfait. Et Seigneur, je te prie vraiment que ce matin, tu fasses ce miracle dans les cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, nous avons un autel dont ceux qui servent dans le tabernacle n'ont pas le droit de manger. Alors vous imaginez un autel, bon, normalement ça c'est le nouvel autel. J'ai demandé à Marie-France si elle trouve un beau buffet, voilà, mais c'est pas grave, même une table ça suffit. Voilà, ça c'est l'autel dans le Nouveau Testament. C'est l'autel où, sur lequel... Voilà, c'est un peu le fouillis, là. Mais ce qui est important, c'est le pain et le vin. Les offrandes aussi sont importantes. Le pain et le vin. Ça, c'est la mémoire du sacrifice de Jésus. Et ça, ça doit être présent dans chaque culte pour qu'il soit valide. C'est pour ça qu'on essaie de le prendre tous les dimanches. Ce n'est pas non plus une obligation. Dans le passé, les chrétiens, enfin le christianisme, différents mouvements, l'armée du salut, je crois, le font une fois par an ou une fois par mois, je ne sais plus, enfin, de manière très espacée, parce qu'ils se sont aperçus que ça devenait une telle routine que, voilà, tous les dimanches. Donc bien sûr, on est toujours, disons, confronté à ce problème. Si on le fait tous les dimanches, c'est une routine. Si on ne le fait plus, vous voyez, on le fait tous les ans pour éviter la routine. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est que, déjà, c'est un symbole important. Ce serait dommage qu'il ne soit pas là, mais que nous ne fassions pas de quelque chose une routine. Donc c'est de nous que ça dépend, c'est notre cœur. Alors, c'est à nous de ne pas que ce soit une routine. C'est pour ça qu'il faut préparer nos cœurs à chaque fois qu'on prend la scène pour que ça soit une intimité et que ce soit le renvoi vers le sacrifice de Jésus. Sinon, effectivement, ça perd son sens. Alors, donc nous avons un autel. Et ça, c'est l'autel du Nouveau Testament, dont parle l'Épître aux Hébreux, mais il parle aussi de l'ancien autel. Et l'ancien autel, dans le temple, et avant le temple, c'était dans le tabernacle, puisque vous savez que le tabernacle a été mis en place par Moïse. Avant, il n'y avait pas de tabernacle, c'était les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, ils faisaient des sacrifices, mais il n'y avait pas d'autel. Il n'y avait pas d'autel permanent. Okay. Et quand Dieu a constitué le peuple de l'élection, le peuple qui est sorti de l'Égypte, qui a été délivré, qui renvoie au salut en Jésus-Christ, le symbolisme est très clair, et il a institué une liturgie, c'est-à-dire une façon de faire le culte. Cette façon de faire le culte avait besoin d'un autel. Et cet autel, eh bien, sur cet autel, l'élément essentiel, c'est le sacrifice. Parce que sans sacrifice, on ne peut pas connaître Dieu. Dans toutes les religions du monde, c'est une évidence. Le sacrifice est quelque chose qui est à la base de notre possibilité en tant que pécheur d'être en contact avec Dieu. C'est le sacrifice. Toutes les religions, c'est la base du culte. Dans le christianisme, le sacrifice ultime, c'est Jésus. C'est la seule différence, c'est que Jésus, il l'a fait une fois pour toutes et il s'est donné lui-même en rançon pour plusieurs. Mais l'autel est absolument indispensable et donc il essaye de montrer, donc dans l'Épître aux Hébreux, en quoi ce nouvel autel est en lien avec l'ancien autel. Le mot autel est employé ici pour ce qui est offert sur l'autel. Les Hébreux chrétiens n'étaient plus des Juifs qui possédaient un culte auquel d'autres qu'eux ne pouvaient prendre part, parce qu'entre le judaïsme et le christianisme, les rôles étaient maintenant renversés. L'autel de Dieu, l'agneau de Dieu, appartenait aux chrétiens. Ce n'était plus l'agneau pascal qu'on offrait chez les Hébreux, c'était l'agneau de Dieu, on l'a chanté ce matin, l'agneau de Dieu qui a été crucifié. Jésus s'est offert comme un agneau immolé. Et eux seuls y avaient droit. Et le judaïsme n'avait plus d'autel, ils n'ont plus de culte. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus d'autel, ils n'ont plus de culte. C'est d'ailleurs leur grande souffrance. Les juifs aujourd'hui, qui se radicalisent de plus en plus, il y a des juifs orthodoxes, ultra-orthodoxes, ultra-ultra-orthodoxes, bon. Et les ultra-orthodoxes, vous le savez, sinon vous regardez sur YouTube, ils ont pratiquement fini, ils ont refait tous les ustensiles du culte. Tous les ustensiles, pratiquement, sont faits, grandeur réelle, voilà, etc. On travaille comme, je ne sais pas combien de temps, pendant 20 ans à ça. Et aujourd'hui, ils pourraient, mais ils ne peuvent pas, ils pourraient faire le culte. Pourquoi ? Parce qu'il y a la mosquée d'Al-Aqsa qui est là et qui les empêche de faire le culte. Mais ils n'ont qu'une envie, c'est de le faire. Voyez ? Bon, c'est charnel. Mais c'est pour montrer qu'ils sont bien conscients qu'ils n'ont pas ni de temple, ni de culte, ils ont juste le mur, des lamentations, ils peuvent se lamenter, prier, mais pas faire de culte. Voilà. Donc c'est une réalité, et Dieu le fait exprès. Pourquoi il y a la mosquée ? C'est pas le hasard, c'est parce que Dieu maintient cette mosquée pour qu'ils ne puissent pas faire de culte. C'est normal, parce que le vrai culte, c'est Jésus. Il faut qu'ils tournent leurs yeux vers le Messie, qui a été crucifié une fois pour toutes, pour les Juifs et pour les non-Juifs. Voilà, c'est une réalité spirituelle. Et donc, vous savez, Dieu ne fait pas les choses au hasard, il les fait bien, et il tient l'histoire dans sa main. Mais aujourd'hui, les Juifs n'ont plus de culte, n'ont plus de lieu d'adoration, n'ont plus de tabernacle. Voilà ? C'est une réalité. Et c'est nous qui l'avons. Mais est-ce que nous en prenons soin ? Vous voyez, je pense que c'est une question de responsabilité. Est-ce que nous sommes conscients? Nous sommes conscients que cet autel remplace le culte juif. Hello ? Et c'est là que, quand on prend conscience, la crainte de Dieu se développe. Et vous savez que dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul dit « Parce que des chrétiens ne prennent pas correctement le culte, il y a des morts, il y a des morts chez les chrétiens. » Et il y a des gens qui sont infirmes, etc. C'est grave, ça. Vous voyez ? Dans notre église, là, quand on est sorti en 98, Ricardo, souvent, il ne prenait pas la Sainte-Seine. Je dis, mais pourquoi ? Parce que j'ai peur. Voilà. Enfin, lui, il avait peur. Il avait peur qu'il avait fait un péché et tout ça, et qu'il lui arrive quelque chose. Pourquoi ? Parce que tous les samedis, il était paralysé dans son lit. J'avais du mal à le croire, mais c'est vrai. Parce qu'il m'aidait à sortir l'église de l'ornière dans laquelle on était tombé. Et lui, il trinquait, c'est vrai. Pourquoi ? J'en sais rien. Mais c'est comme ça, pendant presque un an. Tous les samedis, il était paralysé dans son lit. Je ne veux pas vous faire peur. Hein. Je veux juste vous dire que quand on veut quelque chose, il faut se battre. Hein. Et à l'époque, on se battait et on continue à se battre parce que c'était pas le rose. Hein. Parce qu'il fallait que cette église puisse tenir sur le roc. Hein. Et donc lui, il avait peur, hein, parce qu'il savait pas trop. Il disait pourquoi ça m'arrive pas, etc. Bon, et souvent il me citait ça. Il me dit mais attends, on peut tomber malade, on peut tomber. Et lui, il pensait à lui quoi. Mais je vous dis pas ça pour faire peur. Je dis ça simplement que il faut prendre la scène avec piété et avec crainte. C'est ce que ce passage nous dit, nous rappelle hein, à la fin, que nous puissions sans cesse offrir à Dieu, on l'a lu tout à l'heure, je ne sais plus quel verset, que nous devons... Ah non, c'est le verset que j'ai lu en entrée. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui soit agréable avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Voilà, donc les Juifs, c'est une réalité aujourd'hui, jusqu'à maintenant, et depuis 70. Quand est-ce que ça a commencé ? C'est en l'an 70. En l'an 70 de notre ère, les Romains sont venus, et ils ont rasé Jérusalem, ils ont rasé le temple, ils ont tout rasé, et comme ils savent le faire, et ils ont mis du sel partout. Le sel, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui pousse. Voilà, ça c'était les Romains, ils étaient tellement excédés de la Palestine, qu'ils ont fait ça. Et du coup, tous les Juifs ont été envoyés dans toutes les nations. Ça s'appelle la diaspora. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, ils n'ont toujours plus de temple, ils n'ont toujours plus de lieu de culte, etc. Mais c'est nous qui avons hérité de ce culte et de cet autel. Ce que dit la parole ici, c'est qu'à l'époque, quand il y avait l'autel chez les Juifs, il y avait plusieurs sacrifices. Plusieurs manières de sacrifier, il y avait des sacrifices communs et des sacrifices exceptionnels. Pour des péchés communs, si vous déplaciez la borne de votre voisin, vous avez péché, vous deviez demander pardon à Dieu et amener un sacrifice. Bon, ce sacrifice-là était accompli devant vous, dans le parvis, on ne rentrait pas dans le sanctuaire, et vous étiez exempt. Du péché, à condition que vous ameniez vous-même les éléments du sacrifice, que ce soit des tourterelles, des petits animaux parfois sur des petits péchés, etc. C'est de là d'ailleurs que l'Église catholique a tiré toutes ces manières de péché, les petits péchés, les grands péchés, les péchés véniels, les machins, etc. Voilà. C'est du copier-coller de l'Ancien Testament, c'est tout. Mais pour Dieu, aujourd'hui, il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés. Tout péché coupe le lien avec le Seigneur. Donc voilà, c'est la grâce, mais en même temps, il n'y a pas de grands, de petits péchés, etc. Vous voyez, tout péché, tout ce que vous faites qui n'est pas conforme à la parole, eh bien vous devez vous repentir tout de suite. Tout de suite. Plus vous repentez vite, plus vous êtes libre. Vous voyez, ça c'est quand vous pouvez dire papa dans votre cœur, comme on l'a fait tout à l'heure, il faut que vous soyez sensible au péché. Dès que vous avez péché, demandez pardon. Et vous pouvez vivre libre. Sinon, vous ne pouvez pas vivre libre. Petit à petit, le péché va, hop, vous remettre le grappin dessus. Et il faudra aller voir Elsa pour faire un décupé. Donc n'attendez pas, n'attendez pas faire un parcours de décupé, vous le faire vous-même. Vous libérez, vous restez libre sans arrêt. Amen. Voilà. Ça, c'est le sens de la crainte et de la piété. Donc, la fin, dans le judaïsme, il y avait les petits péchés qui nécessitaient des petits sacrifices et des grands péchés, en particulier celui du peuple tout entier, une fois par an, Yom Kippour. Il y avait un grand sacrifice, des taureaux immolés, enfin voilà, des grandes bêtes et tout ça qui, symbolisaient le péché, qui était sacrifié. Et là, le rituel était différent. Le sacrificateur prenait le sang et rentrait dans le sanctuaire avec. Et le souverain sacrificateur prenait, il y avait un certain nombre de rituels, de prières, etc., qui étaient imposés par Dieu, et le souverain sacrificateur prenait ce sang et l'entrait dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint. Il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Si quelqu'un rentrait par mégarde, il était tué immédiatement. Immédiatement. C'était pas possible, c'est la présence de Dieu qui était là. Et même le souverain sacrificateur, s'il ne se préparait pas dans son cœur, et même aujourd'hui, le Kippour se fait, et pendant une semaine, il se prépare. Et les gens sont au balcon et tout ça, ils attendent qu'il se prépare, etc. Vous voyez, le rituel continue. Mais à l'époque, s'il ne se préparait pas bien, il lui mourait aussi. Et on lui mettait une corde à son pied, parce que comme personne ne pouvait chercher le corps, s'il mourait, eh bien, on le tirait, s'il était mort, c'est lui qui assumait sa responsabilité. Et si on n'entendait plus rien, au bout d'une demi-heure, on considérait qu'il était mort, on le tirait et on l'enterrait, on mettait un nouveau sacrificateur. Vous voyez, c'est pas de la rigolade. Crainte et piété. Se préparer dans la piété et savoir que Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, nous devons vivre dans cette compréhension que Dieu, on ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. Okay ? Il faut le respecter. Il faut respecter sa parole. Non pas par obéissance, par légalisme, mais par amour. Et l'apôtre parle de ce sacrifice-là, du sacrifice ultime, où il fallait entrer dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, pour obtenir la faveur pour tout le peuple, pour tous les péchés, soit expié. Et qu'est-ce qui se passait avec le corps? Parce que ça, c'est le sang. Il emmenait juste le sang. Comme ici, il y a le sang. Les coupes représentent le sang de Jésus. Hein. Donc le sang est présent. Et par contre, le corps, il reste. Vous voyez, il y a le corps et le sang. Et le corps qui restait des sacrifices, qu'est-ce qu'il fallait faire avec? Brûler hors du camp. Parce que tous les autres sacrifices, comme je disais tout à l'heure, vous déplaciez la bande d'un voisin, vous aminiez, ça, le sacrificateur pouvait le manger. C'est-à-dire le sang était offert, et le corps, la viande, permettait au sacrificateur de se nourrir, parce qu'il fallait qu'il se nourrisse. Les Lévites étaient toute une tribu, hein, je ne sais pas combien ils étaient. Je dis n'importe quoi, à moins que quelqu'un ait un chiffre, 2000, 3000, 10 000, je ne sais pas. Enfin, c'était toute une tribu. Et cette tribu ne travaillait pas. Donc, ils vivaient du sacrifice qui était apporté. Vous voyez, donc, je peux vous dire qu'il y en avait. Hein. Tout le monde apportait des sacrifices, il y avait des péchés. Hein. Et il y avait aussi de la nourriture. Voilà. Donc, ils vivaient de ça. Ils vivaient de ça, Dieu avait tout prévu. Mais pas lorsqu'il y avait le sacrifice ultime qui était fait. Il était brûlé hors du camp. Il ne servait pas à la nourriture de celui qui faisait le culte. De celui qui le desservant de l'autel. Alors, tout ça, ça a du sens. C'est quoi le sens aujourd'hui? C'est ça qu'il faut interpréter. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Parce que sinon, on dit, ah oui, mais c'est les Juifs, c'est machin, c'est à l'époque, qu'est-ce que c'est, voilà, ça ne me touche pas. Bien sûr, ça ne vous touche pas. Vous ne pouvez pas à Jérusalem aller dans le temple, il n'y en a plus. Donc, bien sûr, ça ne nous touche pas. Mais la réalité, ça nous touche. Voilà. Et c'est ça qu'on va essayer de voir jusqu'à la fin. C'est l'enseignement de ce matin. Sortons donc hors du camp pour aller à lui. Parce que sinon, nous devrions mourir si Jésus ne l'avait pas fait. Donc, nous devons faire une chose, c'est sortir hors du camp. C'est ça que nous devons faire, que nous devons comprendre par rapport au culte du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Tout le christianisme est la réalité de l'ombre de l'ancienne alliance. Voyez-vous, le christianisme, c'est l'accomplissement de toute la symbolique, c'est une symbolique qui était enseignée et qui était pratiquée par les juifs. Nous avons un autel, ne signifie pas que les chrétiens en aient un, tandis que les juifs en ont un autre. Non, simplement que les juifs n'en ont plus. C'est pour ça que nous sommes doublement responsables. Nous devons aussi accueillir les Juifs à la table du Seigneur, et c'est ce que font les Juifs messianiques d'ailleurs. Le sacrifice et l'adorateur avaient leur part dans le sacrifice. Et nous pouvons nous nourrir en communion avec Dieu, ce qui est sa part et la nôtre, et cela dans le sacrifice du grand jour des expiations auquel aucun Juif ne pouvaient participer dans les lieux saints. Chaque fois que l'acte a été fait, les corps étaient brûlés hors du camp. On sortait du camp pour les brûler. Mais l'autel qui était interdit à Israël est maintenant notre autel, l'autel du chrétien. C'est quelque chose qui est absolument extraordinaire et nous devons le comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où Jésus est mort, il s'est passé quelque chose d'important dans le temple de Jérusalem. C'est quoi ? Le voile qui séparait, c'était un grand voile, hein, c'était pas un rideau comme ça, c'était un rideau énorme. Hein, je ne sais pas en quoi il était fait, velours, tout ça, très très épais, qui empêchait vraiment, qui séparait les deux lieux, saint, très saint. Et lorsque Jésus est mort, au moment où il a rendu l'âme, le voile s'est déchiré. Et ça, c'est un symbole. Ça s'est passé réellement à l'époque de Jésus, mais aujourd'hui, ça reste un symbole. Ça reste un symbole qui montre qu'entre le lieu saint et le lieu très saint, il n'y a plus de séparation. Les deux lieux sont... Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, pour nous. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'un souverain sacrificateur humain, comme l'était nécessaire dans le culte juif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce culte-là, puisqu'il a été remplacé. Aujourd'hui, nous avons un souverain sacrificateur. Mais il est où ? Il est au ciel. C'est Jésus. Nous avons un souverain sacrificateur qui a apporté son propre sang. Il est mort. Et son propre sang, il l'a apporté dans le ciel à son Père. Et le Père a regardé et a dit, j'accepte, parce que tu n'as pas péché. Et Jésus a toujours refusé de pécher durant sa vie. Il a même résisté au diable en personne, plusieurs fois. Et même dans le jardin de Gethsémané, où le diable a voulu le faire chuter, il a résisté. Et parce qu'il a pu résister, étant homme, son sang a été agréé. Parce que c'est le seul homme, le seul être humain qui a pu résister de cette manière et que son sang, comme un agneau immolé, a pu être présenté à son Père. Et son Père a dit j'agrée. Et à partir du moment où il a dit j'agrée, eh bien, aujourd'hui, ce souverain sacrificateur que nous avons dans le ciel, nous pouvons venir à lui. Et lui nous fait entrer dans la présence du Père sans ce voile qui était nécessaire à l'époque. Pour séparer les sacrificateurs des souverains, de la table de propitiation où on était propice à Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qui aussi, dans l'histoire, a marqué le culte. Nous sommes dans un culte où nous pouvons venir directement. Chacun de nous, nous sommes prêtres, nous sommes sacrificateurs. Et le souverain sacrificateur, il n'est pas sur la terre, il est là-haut, il est dans le ciel. Amen. Le corps des animaux, dont le sang est porté par le péché, lui, est hors du camp. C'est pour cela que la Bible dit ici, qu'elle nous explique que Jésus, quand il a donné sa vie, quand il a été jugé, quand on l'a condamné, quand on a dit maintenant tu vas être crucifié, eh bien il n'a pas été crucifié à Jérusalem, il a été crucifié à l'extérieur de Jérusalem, sur le Golgotha. À l'extérieur du camp. Et c'est un symbole qui marque une réalité aujourd'hui qui a été parfaitement suivi par Jésus parce que ça devait être une réalité maintenant pour nous. Nous aussi, nous devons sortir du camp. Notre corps, nous devons sortir du camp pour que cette réalité puisse être vécue de la même manière que Jésus l'a vécu. Il est sorti hors du camp. Pourquoi ? Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes pécheurs. Dis à ton voisin, t'es pécheur. Hein ? Nous sommes pécheurs. Hein ? Nous sommes pécheurs, certes, sauvés, mais tous les jours, nous péchons. L'idée, c'est de pécher de moins en moins. Okay. Ça s'appelle la sanctification. Parce que plus nous péchons moins, eh bien, plus nous sommes libres. Hein ? Ça joue juste sur la liberté. Voilà, ça joue pas sur notre salut. Nous sommes tous sauvés, attention, hein, nous sommes tous sauvés en Jésus-Christ une fois pour toutes. Si nous avons accepté un jour Jésus, nous sommes sauvés. Hello? Mais la sanctification, c'est notre degré de liberté. Notre degré de liberté par rapport aux puissances qui nous entourent et qui veulent nous faire du mal. Voilà. Donc c'est le combat spirituel, c'est le combat de la foi, c'est le combat... voilà. Et vous le verrez, vous, si vous le faites dans votre vie, dans votre couple, dans vos familles, dans, voilà. Plus vous marchez dans la sanctification, plus vous connaîtrez l'harmonie dans le couple, plus vous connaîtrez l'harmonie dans le foyer. C'est vrai, il y en a qui ont expérimenté ça. Hein, vous voyez, plus vous approchez du Seigneur, qui lui est saint, et vous êtes pécheur, et bien plus cette sainteté se transfère sur vous et vous avez de moins en moins envie de pécher. C'est ça le Saint-Esprit en vous. Il vous pousse à pécher moins. Alors après, vous pouvez pécher plus, et vous pouvez passer au-delà. Mais plus vous approchez du Seigneur, plus le Saint-Esprit va dire « Ah, attention là !» C'est un peu comme un feu rouge, un clignotant qui s'allume. Vous voyez ? Si vous êtes loin du Seigneur, vous mettrez du temps à ce que les clignotants s'allument. Hein, c'est tout. Le clignotant va s'allumer, mais si ça allume plus tôt, vous avez le temps de freiner. Okay ? Si le clignotant s'allume au dernier moment, vous passez au rouge. Donc vous prenez un PV, okay ? Une amende. Et c'est ça le problème. C'est que plus vous êtes sensible au péché, plus vous allez freiner avant. Et plus vous prenez moins le mur. Mais si vous prenez le mur régulièrement, c'est que vous freinez au dernier moment et que voilà, vous n'êtes pas assez sensible au Saint-Esprit. Hello ? C'est tout simple, hein ? Tout simple, mais après, il faut le faire. Donc, il faut aller hors du camp. Alors, que reste-t-il au peuple juif ? Aujourd'hui, plus rien. Plus rien, si ce n'est que l'espoir, l'espérance, bien sûr, et de reconnaître Jésus comme leur Messie. Mais au niveau du culte, ils n'ont plus rien. Et c'est quoi le camp ? Que représente aujourd'hui le camp ? Sortez hors du camp. Jésus est sorti hors du camp, il est sorti hors de Jérusalem. Et nous, l'apôtre ici qui écrit les livres des Hébreux, il dit « sortez hors du camp ». Allô ? Pardon ? Non, c'est pas le monde, justement. Parce que l'enseignement de l'Écriture est dit que l'Église, quand nous sommes dans l'Église, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Okay ? Donc effectivement, nous sommes dans le monde, parce que voilà, nous vivons dans le monde, nous vivons dans la nation, nous sommes citoyens français, mais nous ne sommes pas du monde. Donc le monde c'est une chose, mais le camp c'est autre chose. Le camp il est dans le monde, donc c'est pas l'équivalent du monde, il est dans le monde, mais c'est pas le monde. Non, c'est pas les... Enfin oui, ça peut être l'Église, on verra tout à l'heure comment. C'est en fait le système religieux. C'est le système religieux. Alors là, il faut bien suivre un peu les étapes de ce qui s'est passé en Israël, de ce qui s'est passé pour le peuple juif. Le peuple juif a été fondé, c'est la constitution du peuple, au Sinaï. Quand ils sont sortis de l'esclavage de l'Égypte, ils sont arrivés au Sinaï. Et au Sinaï, d'ailleurs, il y a eu un tragique au Sinaï, hein, c'est à cet endroit-là, cette semaine-là, et Dieu a dit à Moïse, tu montes sur la montagne. Et sur cette montagne du Sinaï, je vais te donner la loi. Comment mon peuple doit se conduire à partir de maintenant qu'ils sont sortis de l'esclavage de l'Égypte. Ils veulent me rendre un culte, je vais leur dire comment il faut rendre ce culte. Et donc, vous avez tous ces 40 jours de jeûne et prière de Moïse qui reçoit les tables de la loi. Et quand il descend, qu'est-ce qui se passe quand il descend ? Qu'est-ce qui fait le peuple ? Allô ? Ils adoraient le veau d'or. C'est ça le camp. Dans le camp, ils adoraient le veau d'or. c'était les juifs qui adoraient le veau d'or, il n'y avait personne, c'était désert. Donc il n'y avait pas le monde. Okay, le monde, c'était l'Égypte. Hein. Habituellement, c'est l'Égypte qui représente le monde. Hein, qui, les autres nations, enfin, à l'époque, c'était l'Égypte qui représente. Aujourd'hui aussi, dans la Bible, hein, vous voyez l'Égypte, c'est la notion du péché dans le monde. Mais là, c'était dans le camp. C'était dans le camp d'Israël, dans le camp des Juifs qui étaient sortis, qui étaient sauvés de manière extraordinaire du passage de la mer Rouge. Ils ont vu des miracles, ils ont vu Dieu à l'œuvre, ils ont vu Dieu puissant, comme on l'a chanté ce matin. Et pendant que Moïse était là-haut, en train de prier, en train de jeûner, en train de rechercher Dieu, sa face, et quand il descendait, il avait tel rayonnement sur lui que personne ne pouvait le regarder sans être frappé et de mettre un voile sur son visage. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le veau d'or. Ça, c'est le camp. C'est le système religieux, parce qu'ils étaient religieux. Ils adoraient le veau d'or, donc c'était bien religieux. Et oui. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, ah oui, mais notre Moïse, voilà, il est parti, il est mort. Voilà. Vous savez, 40 jours, ça y est, il est mort. Bon, voilà. Effectivement, il n'avait pas amené de nourriture avec lui, donc on peut imaginer, voilà, je ne les critique pas. Mais au lieu de chercher Dieu, ils sont revenus à ce qu'ils ont connu en Égypte. Et en Égypte, le veau d'or représentait la divinité ultime, puisque c'était l'incarnation d'Horus, Dieu Soleil, qui était dans ce veau d'or. Et ils l'ont adoré. Ils sont revenus dans leur système religieux d'Égypte et ils l'ont ramené dans leur système religieux juif. Ça s'appelle un syncrétisme. Et aujourd'hui, pour rejoindre ce que Hélène a dit, aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, l'Église évangélique, hein, qu'elle soit évangélique, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, peu importe, c'est l'Église, c'est les êtres qui sont chrétiens, eh bien, ils ont tendance à revenir au veau d'or. On a naturellement tendance à revenir au veau d'or. Oui. Et c'est ce système religieux qui est le camp. Et quand Moïse est descendu, le sanctuaire, le tabernacle, il n'a pas établi dans le camp, parce que déjà, il y a, je ne sais pas combien qui sont morts, hein, je ne m'en peux plus, le gouffre s'est ouvert, la terre s'est ouverte, et ceux qui étaient en révolte, ils sont tombés dans la terre, et ils sont morts. Hein. Je ne sais pas combien de centaines, pardon. Voilà. C'était le jugement de Dieu. Parce qu'il y en a qui étaient entraînés, d'autres qui étaient entraîneurs. Hein. Bon, les entraîneurs... Voilà, ils ont disparu, mais l'adoration du veau d'or était là, au fond du cœur, puisqu'ils ont suivi, même Aaron s'est laissé faire, même Aaron, le frère de Moïse, il n'a pas pu résister, vous voyez, c'était fort. Hein. Eh bien, Moïse a établi le sanctuaire hors du camp. Il a mis la tente d'assignation, il a mis hors du camp. Vous voyez, déjà là, le veau d'or était déjà, le système religieux était déjà corrompu, à la base. Ensuite, après, vous avez Josué qui rentre dans le pays de Canaan. Josué, David, et David, il avait à cœur de faire une maison pour son Dieu, et Dieu a dit non, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu es un homme de sang, tu es un homme de combat, tu es un homme de sang, tu as tué trop de gens. Effectivement, il avait la mission de faire agrandir le peuple d'Israël et le peuple juif, et il est arrivé. Mais vous voyez, Dieu ne mélange pas les choses. Dieu a dit, c'est ton fils qui sera un homme de paix, qui ne continuera pas les guerres comme tu as fait, c'est lui que j'ai choisi pour établir. Ce n'est pas parce qu'il était meilleur, c'est parce que Dieu a des choses claires, nettes, précises. Et Salomon a établi le temple, et Dieu a accepté que le temple soit à Jérusalem, la ville qu'il a choisie pour établir son nom. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Si vous prenez Ézéchiel, au chapitre 10 plus exactement, dans Ézéchiel, vous voyez que le peuple a été déporté à Babylone, puisque voilà, ils étaient devenus idolâtres, comme tous les peuples qui sont autour d'eux, comme le monde. Ils sont retournés au veau d'or, puisqu'ils ont installé des veaux d'or dans le nord d'Israël et dans le sud d'Israël. Et ils ne sont pas allés à Jérusalem, ils sont allés. Bah, Dieu en avait tellement marre hein, que là, il s'est repenti, un petit peu, on peut dire repentir de Dieu. Hein. Et Ézéchiel voit que l'Esprit de Dieu, il sort du temple et il s'en va sur une montagne pas loin de Jérusalem. Et vous, l'esprit, il y avait le temple, mais la présence de Dieu n'était plus là. Parce qu'ils idolâtraient à l'intérieur du temple. Regardez ce qui se passe dans Ézéchiel 8. Et ça, Ézéchiel a été transporté par l'évitation de Babylone. Et il a eu cette vision, la vision d'Ézéchiel. Et il a vu à la fin que l'Esprit de l'Éternel est parti. Il est allé sur le... Donc vous voyez, vous pouvez avoir un temple, vous pouvez avoir des lieux, etc. Mais si Dieu n'est pas là, ça ne sert à rien. Si la présence de Dieu n'est pas là. Pourquoi nous devons offrir un culte en esprit et en vérité. Sinon, ça ne sert à rien. Nous devenons, et quand je dis nous, je ne suis pas en train de critiquer les autres autour de nous. Je n'ai pas besoin de critiquer, montrer du doigt telle église. Nous, ici, à Aubergenville, si nous n'apportons pas un culte en esprit et en vérité, la présence de Dieu s'en va. Pas tout de suite. Mais nous pouvons, le système religieux chrétien, quel qu'il soit, vous pouvez avoir un beau temple, vous pouvez avoir un tas de trucs, ben, si la présence de Dieu n'est pas là, vous ne recevez rien. Vous recevez des rituels, vous recevez des exhortations voilà, religieuses, mais qui ne vous apportent rien dans votre vie chrétienne. Allô ? Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Ou est-ce que vous voulez la présence de Dieu ? Ben, si on veut la présence de Dieu, il faut honorer Dieu dans le canon, dans ce qu'il a prévu que le culte doit être. Et pour cela, il faut sortir hors du camp. Si aujourd'hui, dans le camp chrétien, il y a des choses qui ne sont pas de la parole, ben, il faut sortir. Il faut sortir. Le principe du camp, c'est une religion terrestre. Or, nous avons vu, et là la parole de Dieu nous dit, que Jésus est dans les lieux célestes. Donc nous devons garder à Jésus, pas à la terre. Voyez ? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte de balancier, vous savez, mais ça c'est très dualiste d'une part, et moi je ne suis pas dualiste, je suis très réaliste, comme vous le savez. Le dualisme, c'est quand on va dans un excès, on va dans l'autre excès. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire un balancier, on veut rétablir des choses. Qu'est-ce que l'Église catholique a fait jusqu'à aujourd'hui encore, mais c'est rétabli un peu Vatican II, mais c'est en train d'être enterré, Vatican II. Hein. On considère que c'est diabolique par ceux qui sont des vrais catholiques, donc vous voyez jusqu'où ça va. Le catholicisme, surtout au Moyen-Âge, il a manipulé le peuple en disant « Votre cité est dans le ciel », ce en quoi ils étaient bibliques. Mais en fait, toute la hiérarchie catholique, alors là, ils vivaient comme des princes. Hein. Ils vivaient d'abondance, de machin, etc., les évêques et tout. Bon, en général, c'était d'ailleurs des fils d'aristocrates de famille qui étaient là. Donc, on utilisait ça pour leur dire, mais regardez au ciel, vous allez être récompensé. Même si vous êtes pauvre, si vous n'avez rien, plus vous êtes pauvre, plus vous irez au ciel. Vous voyez ? Donc on manipulait les gens. C'est la manipulation. Mais ce n'est pas parce qu'il faut manipuler que c'est une religion terrestre. Mais aujourd'hui, si on dit, il ne faut plus regarder au ciel, il faut regarder à la terre, ben, c'est l'effet inverse. Regarder à la terre, non, le salut ne viendra pas de la terre, il viendra du ciel. Par contre, Jésus établira les choses sur la terre. Mais laissons l'histoire continuer. C'est au moment où Jésus va le faire, on va regarder à la terre. Et aujourd'hui, nous n'avons pas regardé à la terre, nous regardons au ciel. Nous devons être ambassadeurs sur la terre. Oui, oui. Mais nous ne devons pas chercher des choses pour améliorer des choses qui sont inaméliorables sur la terre. C'est inaméliorable. Parce que c'est le péché. Les gens du monde, de plus en plus, ils ne veulent pas résoudre le problème du péché, ils ne veulent pas. Donc ils ne peuvent pas améliorer quelque chose qui est destiné à la destruction. Voyez ? Vous pouvez être ambassadeur, vous pouvez être témoin du Christ. C'est ce que les premiers chrétiens étaient et c'est ce que nous devons être. C'est ça, sortir hors du camp. Hello ? Sortir hors du camp, c'est d'identifier où nous, et moi dans une église, et avec d'autres, identifier où nous sommes dans le camp. Et dans le camp, eh bien, il faut identifier ça c'est religieux, ça c'est religieux, ça c'est religieux, ça c'est pas biblique, ça c'est des prophéties qui n'ont rien à voir avec la Bible. Hein, bon, on les sort du contexte, tout ça. Et ça c'est notre rôle. Parce que sinon, nous rentrons dans des systèmes religieux. Voyez ? Et c'est ça qui est le plus grand danger pour un chrétien. C'est parce que. Et C.S. Lewis, qui était un des plus grands théologiens du XXe siècle, il a bien dit des vérités en disant qu'un chrétien, quand il devient chrétien, enfin un non-croyant qui devient chrétien, il n'y a que deux choses. Ou il devient meilleur, ou il devient pire. Pire. Ou il devient meilleur, ou il devient pire. Qu'est-ce que ça veut dire, cette vérité? Ça veut dire que si vous cherchez à sortir hors du camp, vous deviendrez meilleur. Parce que vous faites ce que Jésus a fait. Il est sorti hors du camp. Il n'a pas été reçu à Jérusalem. À Jérusalem, bon, c'est vrai qu'ils ont, ils l'ont accueilli le jour des rameaux. Mais quand il fallait le crucifier, il dit « crucifie-le, crucifie-le ». Hors du camp. On ne veut pas ce Jésus dans le camp. C'est les Juifs qui ont décidé ça parce que leur système religieux était menacé. Leur réputation était menacée. Et ils en voulaient à Jésus parce que les gens du peuple qui avaient besoin de guérison, les aveugles qui avaient besoin de voir, etc., ben ils allaient vers Jésus. Et eux, ben, attends, moi j'existe, vous voyez, donc la jalousie là, qui s'est développée, etc. Et ils voulaient maintenir leur système religieux parce qu'ils vivaient de ça. Mais Jésus a dit non, c'est hors du camp. Je sors de ce système religieux et je sors hors du camp. Et nous devons avoir l'audace, nous devons avoir le courage de sortir hors du camp. Vous savez, l'avenir qui est devant nous, il n'est pas plus difficile. Aujourd'hui, c'est pas plus difficile de vivre qu'au temps des premiers chrétiens. Imaginez les premiers chrétiens qui étaient traînés dans les cirques. Vous voyez l'idée? Vous pouvez avoir des enfants dans ces cas-là, être déchirés dans les cirques et tout ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul, à l'époque, disait « mais soyez comme moi, ne vous mariez pas ». Bon, c'était simplement un principe de précaution. Mais vous voyez, il était obligé d'arriver au fait qu'on ne peut pas faire de famille. Aujourd'hui, vous pouvez faire une famille, si. Oui, donc vous êtes béni. Vous êtes béni. Mais ce n'est pas parce qu'on est béni qu'il faut se corrompre avec le monde. Voilà. Il faut que nous soyons de ceux qui avons une colonne vertébrale qui puisse affirmer en disant « je sors hors du camp, je suis dans le monde mais je ne suis pas du monde ». Tel film, je ne regarde pas parce qu'il n'est pas pour moi. Vous voyez, ça c'est une affirmation de votre personnalité chrétienne. Mais il n'y a que vous qui le faites. Personne ne peut le faire à votre place. Donc toutes ces attitudes, c'est sortir hors du camp. Dans le monde chrétien, s'il y a des choses qui se véhiculent, vous dites ça, c'est pas biblique, je le reçois pas. Ça, c'est sortir hors du camp. C'est pas suivre qu'on est mouton, les moutons de Panurge. Il paraît que Rabelais a dit il suffit d'enlever le meneur et puis voilà, les moutons s'arrêtent, c'est vrai. Mais faites attention aux meneurs que vous suivez. Si vous suivez des meneurs qui vous emmènent dans le trou, eh bien arrêtez-vous, parce que vous n'êtes pas des moutons de Panurge, vous êtes les brebis du Seigneur. Amen. Sortons hors du camp. Cette parole est de toute importance. Parce que le jugement allait tomber sur Jérusalem. Jésus, il a pleuré sur Jérusalem. Il a dit, si seulement tu pouvais te repentir. Eh bien, quand Jérusalem était détruit, en l'an 70, il n'y avait plus aucun chrétien. Ils avaient compris. Même physiquement, ils étaient partis. Jérusalem était détruite, mais les chrétiens sont partis hors du camp. Que ce soit un exemple pour nous. N'attendons pas de nous laisser embarquer dans des choses qui sont des systèmes religieux et sortons hors du camp. Amen. Christ est dans le ciel. Il est les prémices, il est le premier de ce que nous allons devenir. Nous allons ressusciter avec lui. Nos corps vont être transformés. Voilà. Mais pour l'instant, nous vivons étant ambassadeurs de ce royaume. Et là, il nous faut sortir hors du camp. Amen. Que nous ne restions pas là où nous sommes. Nous avons une responsabilité. Notre salut est en jeu. Notre sanctification est en jeu. Notre témoignage de grâce et de puissance et de la présence de Dieu au milieu de nous. Et il faut que des gens qui viennent ici, de toutes parts, soient saisis par la présence de Dieu. C'est ça qui est important. Amen. Si ça, ce n'est pas notre objectif, eh bien, tout le reste, ça ne sert à rien. Nous allons nous faire plaisir. Nous allons, voilà, être gentiment avec les uns les autres. Mais ça, ça ne change rien. Allô ? Il faut que ce soit le ciel qui descende. Il faut que ce soit Jésus, sa présence, qui soit là. Et pour cela, il faut que nous sortions hors du camp. Mais c'est quoi le prix à payer ? Sortir hors du camp. Sortir hors du camp. Sortir hors du camp. Voilà, c'est la souffrance. Si vous lisez le verset, bien sûr, ça c'est pas agréable. Hein. La partie agréable, c'est de sortir, mais la partie désagréable, c'est de souffrir. Verset 13, et je termine là-dessus. Sortons donc hors du camp pour aller à lui. Parce que lui, il n'est pas dans le camp, il est hors du camp. Il n'est pas dans les systèmes religieux, il est hors du système religieux, en portant son nom propre. C'est quoi l'opprobre ? L'opprobre, c'est un outrage. Est-ce que vous acceptez d'être outragé ? Pas facile. Pas facile. Moi, j'en sais quelque chose. Quand j'ai fait le stand biblique, quand j'ai rencontré Michel, on s'est rencontrés. Et on s'est rencontrés le vendredi, dans un métro. Hein. On s'est rencontrés le vendredi et j'ai dit, écoute, lundi, on commence un stand. Lundi, on a commencé un stand. Et à l'époque, c'était 70. À l'époque, c'était encore la fin de 68. Eh bien, un gars qui est venu me gifler comme ça, je suis tombé par terre, tout a déchiré, tout le truc, etc. On a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on continue. Et le gars, il passait tous les stands, tous les midis devant moi. Il était là, violent comme pas possible. Voilà, c'est l'opprobre. Mais nous, on était là pour témoigner. On a vu des choses formidables, des gens qui ont tourné en rue. Quand j'étais... j'ai eu mon concours pour être aux arts et métiers, la première chose... Ils ont fait, il y en a qui m'ont giflé et tout ça, qui voilà, parce qu'ils acceptaient pas mon témoignage. Ouais. Mais moi j'étais heureux au fond de moi, j'étais heureux de pouvoir servir le Seigneur. J'ai pas cherché ça. Hein. Mais voilà, c'est un apprentissage de voir que quand on est un vrai de Dieu, on devient un outrage pour les autres, on devient une opprobre. Et on cherche pas l'opprobre, on la cultive pas, on n'essaie pas de par l'opprobre gagner quoi que ce soit. Mais l'opprobre fait partie du fait que quand on n'est pas dans un système religieux, obligatoirement, on est dans l'opprobre. On est outragé. Alors, ne cherchons pas l'outrage, mais si elle vient, réjouissons-nous. Quand les disciples étaient en prison, ils chantaient les louanges du Seigneur. Et puis, un jour, toutes les portes sont ouvertes, Pierre est sorti, voilà, il n'y a plus rien. Mais d'autres fois, il restait, et puis tout était ébranlé. Voilà, et les louanges dans la prison ont touché des gens qui se sont convertis. Donc, dans l'opprobre, louons le Seigneur, parce que le Seigneur a un plan. Chacun de nous, il a un plan. Donc, sortons en portant son opprobre, en acceptant de ne pas être accepté, hein, comme voilà, avec des grands. Si on est accepté par certains, ça veut dire qu'ils cherchent le Seigneur et on peut les amener au Seigneur, tant mieux. Mais l'opprobre fait partie de sortir hors du camp. Parce que le monde ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. C'est parce que il faut avoir pitié des gens qui sont encore dans l'esclavage du péché, dans les ténèbres. Et il faut prier pour eux. Prier pour ceux qui vous persécutent, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui sont... Et vous les verrez venir au Seigneur s'ils sont ouverts, sinon ils ne viennent pas au Seigneur, c'est eux qui décident. Mais nous acceptons l'opprobre, a priori, parce que si nous cherchons à l'éviter, nous allons rentrer dans les systèmes religieux. Obligatoirement, nous allons rentrer dans les systèmes religieux. Lorsque Hitler est monté au pouvoir, toute l'Église en Allemagne l'a soutenue. Il y a même l'Église luthérienne qui a sorti une déclaration. Alors là, ils se sont maudits eux-mêmes. Ils ont sorti une déclaration. Et la déclaration disait que les églises de Pentecôte, qui venaient de naître en 1904 à Azusa Street, c'était diabolique. Et là, ils se sont mis, effectivement, sur eux, ils se sont mis une malédiction. Ce qui fait qu'ils ne vous voyaient plus. Vous voyez, la malédiction, c'est quand vous avez un voile. Et ce qui fait que ce que vous dites, eh bien, vous êtes en train de vous condamner vous-même. Et ça, c'était un drame pour l'Église allemande. Mais il y a Bonhoeffer qui s'est levé. Et Bonhoeffer, il est sorti hors du camp. Mais si lui a coûté les têtes, Hitler l'a décapité. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a tué, comment. Il a fusillé. Hein, parce qu'il voulait se lever. Il y avait une petite minorité qui s'est levée. Mais ça leur a coûté la vie. Okay. C'était trop tard. L'Église avait déjà ouvert les portes. Hitler avait réussi. Alors ne soyons pas de cela. L'Antichrist se lève. On n'a pas besoin d'avoir peur de lui. Mais il faut que nous tenions ferme. Nous tenions ferme sur la parole de Dieu. Amen. Et que nous ne fassions pas de compromis dans l'Église. Ne fassions pas de compromis dans notre vie chrétienne. Ne fassions pas de compromis parce que nous ne pourrons pas grandir dans le Seigneur. Amen. Seigneur, te prions de nous aider dans ces temps certes difficiles, mais exaltants. Seigneur, merci de pouvoir vivre dans ces temps où tu nous as placés pour être témoins dans notre contexte, dans notre culture, dans notre toutes ces choses extraordinaires que nous avons, tous ces moyens, Internet et autres, que nous puissions les utiliser pour ta gloire et que nous ne fassions pas de compromis dans notre système religieux, Seigneur. Que ce reste un système où nous cherchons ta présence, où nous cherchions à ce que toi, tu sois honoré, glorifié, élevé, Seigneur. Et que, Seigneur, ainsi, tous les ennemis puissent être vaincus, parce que c'est toi qui les a vaincus et qui aujourd'hui va les vaincre pour nous. Alors, nous te remercions pour ce que tu fais pour chacun de nous et pour notre Église, que tu la gardes, tu la maintiennes, Seigneur, dans la vérité. Parce que ta parole nous dit que l'Église doit être la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et Seigneur, pour être la colonne et l'appui de la vérité, nous avons besoin de ta grâce. Nous te remercions de nous l'accorder dans le nom de Jésus. Amen, amen.